Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous. Confinés, déconfinés, revoilà pour une nouvelle saison la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du mensuel Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Afin de fêter ça, nous accueillons avec toutes les précautions d'usage, masques et distanciation sociale, deux invités pour le prix d'un. Et pas n'importe lesquels, Michel Peraldi et Michel Sanson. Mais avant de tchatcher, comme c'est l'usage, plantons rapidement le décor et présentons-les. Rappelons à celles et à ceux qui, sidérés par le grand confinement au printemps et tétanisés par les suites incertaines de l'épidémie de la Covid-19, auraient totalement zappé les élections municipales. Jean-Claude Gaudin, après 25 ans de règne, n'est plus maire de Marseille. Et dans le fauteuil du patriarche de la droite phocéenne siège désormais une femme, Michèle Rubirola, écologiste, tête de liste du printemps marseillais. Un conglomérat des gauches, d'écolos, de pros, de la politique et de militants non encartés. Une nouvelle donne inattendue tant Martine Vassal, héritière du maire sortant, semblait partie favorite. Une victoire à l'issue d'une mobilisation aussi singulière en France qu'inédite à Marseille. Pour décrypter pareil séisme, qui de mieux que Michel et Michel, Sanson et Peraldino, Dupont et Dupont, co-auteurs en 2005 de Gouverner Marseille, devenu de réédition en réédition, un des livres de référence pour comprendre la mystérieuse Massilia. Michel Peraldi, l'Indiana Jones de l'anthropologie urbaine des métropoles, le Rouletabille de la sociologie des dynamiques migratoires méditerranéennes, le Nestor Burma des circuits économiques informels, l'Arsène Lupin des économies criminelles organisées. Michel Sanson, la bonne mère du journalisme marseillais, le vélodrome des correspondants phocéens, le De Niro du documentaire politique, co-auteur avec Jean-Louis Comolli des 9 épisodes de la précieuse série documentaire se déployant de la mort de Defer à la dernière victoire de Gaudin. Vous avez, en 2015, signé ensemble un nouvel essai, Sociologie de Marseille, pour tirer le portrait d'une ville, je vous cite, autant imaginée qu'habitée mais fracturée. Puis, cette année, avant les élections, vous avez publié, à quatre mains, Marseille en résistance, au sous-titre explicite, fin de règne et luttes urbaines. Et vous sortez, aujourd'hui, écrit à chaud suite au scrutin, le chapitre manquant, joliment édité sous forme de livret aux éditions communes. Son titre, Marseille, nouvelle vague. Une vague tout autre que celle du coronavirus. Une réaction peut-être à ce double portrait.
En ce qui me concerne, je préfère le Dupont à Tintin et Milou, mais bon, sinon ça va très bien.
Non, c'est bien parce que ça m'a fait rire, donc c'est déjà pas mal.
Bon, c'est un bon signe. Oui. Alors, pour le coup, votre chapitre manquant démarre avec un chapitre qui m'a rendu jaloux un petit peu, moi, rédacteur en chef du mensuel Le Ravi, un jeu de mots qu'on aurait bien aimé faire, on l'a même pas pensé, à propos de Michèle Rubirola, la bonne mère.
Vas-y, Michel.
Alors,
Peraldi.
La bonne mère.
Oh, c'était une marque de sympathie en plus du jeu de mots. Je veux dire, c'est une manière aussi. Nous, je crois qu'on a vu dans Rubirola, au-delà de ses positions politiques et de ce qu'elle est politiquement et de ce qu'elle change, on a vu aussi un nouveau personnage et une nouvelle manière d'être dans l'espace public et dans la politique. Et donc, je pense que c'est ça qu'on voulait signaler ou en tout cas souligner. C'est cette manière très différente aujourd'hui d'être maire et d'être présent avec les citoyens ou dans le débat public, quoi. Voilà.
D'accord. Alors, dès le départ, vous voulez combattre un cliché qui lui colle à la peau et qui est du fait de notre profession de journaliste, c'est-à-dire qu'on la présente souvent comme une novice en politique. Et là, vous dites non.
Ah, pas du tout. Enfin, moi, je pense pas que. Non, je pense pas que le noviciat existe en politique. Enfin, ça, peut-être que c'est un point de vue trop personnel. Je pense que il faut longtemps pour former du personnel politique, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs. Je crois pas que le noviciat existe. Mais surtout, ce qu'on signalait dans le chapitre manquant, c'est que Rubirola, elle vient directement de la liste de Pape Diouf et qu'elle en est. La liste de Pape Diouf a été une sorte de répétition de ce qu'a été
changé
le printemps marseillais,
6 ans plus tôt.
Voilà. Et donc du coup, Rubirola, elle sort aussi de ce moment. Alors évidemment, c'est pas un vieux notable de la politique, c'est pas un vieux classique de la politique, mais en même temps, elle a assez d'expérience pour ne pas sortir de nulle part, quoi.
D'accord. Et alors, autre chose, vous dites ce qui la caractérise, c'est son rapport faiblesse et force et réciproquement, en fait.
Oui, parce que on disait aussi dans Marseille en résistance de livre qui est sorti donc avant qu'on sache qui était candidat, parce que on l'a fini en octobre et les candidats n'étaient même pas désignés. On souligne donc que les questions d'émotivité, d'émotion et autres, de sensibilité sont souvent négligées par les sociologues en général, mais même par les journalistes qui aiment bien raconter les histoires de cul, mais qui c'est pas de comprendre que cette question des émotions qu'on crée sont majeures pour toute action politique du monde, j'ai bien du monde, pas simplement à Marseille. Et donc nous, on a voulu souligner ça, parce que souvent c'est un peu oublié dans les traités de sociologie sérieux, ou dans les analyses extrêmement sophistiquées de l'éditorialiste de je ne sais quel journal. Nous, on pense que c'est au cœur. Pour comprendre la politique, il faut comprendre ça. Et donc la façon de se comporter, la façon de s'habiller, la façon d'être ému, la façon de pleurer, ça compte beaucoup, d'autant que si on regarde les mouvements sociaux, les mouvements politiques dans la ville de Marseille comme ailleurs, ils sont aussi créés par des émotions. C'est bien après la mort de 8 personnes que renaissent des collectifs urbains, parce que tout le monde a été ému, a pleuré, a eu peur, et il y a eu des manifestations pour ça.
Donc, vous faites référence à la rue d'Aubagne.
Absolument, pardon, j'avais oublié de le dire. Mais on tient à ça parce que souvent on a des analyses sociologiques très sérieuses sur les appartenances professionnelles, les professions politiques et tout, mais on oublie que la politique se joue aussi grâce, avec ou contre des émotions. Les émotions peuvent être la colère, hein, la joie, la tristesse, etc. Et donc, Madame Rubirola, pour revenir sur elle, le personnage, et il n'y a pas que ça qui compte, elle incarnait ça de façon spontanée et volontaire. Voilà, elle est émue, et on le souligne, quand elle embrasse Gaudin une fois qu'elle est élue, elle est toute émue, elle est gentille avec lui, et le vieux Gaudin, bah, il est tout ému aussi. Et ben, ça fait partie des choses qui mérite d'être décrite quand on s'intéresse vraiment à la politique au sens profond du terme.
Alors ça, c'est la fin, effectivement, quand la nouvelle maire salue le vieux maire. Mais avant, justement, sur ce registre des émotions, des affects et d'une faiblesse supposée, hein, de Michel Rubirola, il y a eu à la fois, finalement, une attente pour certains et pour les autres, au contraire, une crainte qu'elle se casse, en fait, qu'elle ne tienne pas la campagne parce qu'elle n'était pas une pro, parce qu'elle avait ce rapport aux émotions. Ça a été très présent dans cette campagne. Quel regard vous avez eu là-dessus?
Oui, ça a été présent, mais les choses sont pas contradictoires, mais il y a des choses différentes. Un, c'était présent. Deux, effectivement, elle refuse un débat, alors que certains, d'ailleurs, au sein du Printemps républicain, disent « Oh, elle aurait dû aller au débat avec Vassal ou au débat avec Mars Actu, elle le fait pas. » Ok. Mais ce qui fait qu'elle gagne quand même de 10 000 voix au premier tour, c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que cette personne est à la tête d'un conglomérat étrange qui est pas tout à fait nouveau, mais qui mélange justement des acteurs des collectifs urbains, du collectif Noailles par exemple, et des acteurs politiques à l'ancienne. On raconte dans cette brochure Nouvelle Vague que le soir de où on attendait les élections le dimanche soir, on était à l'intérieur, alors que les journalistes étaient dehors. Nous, on avait réussi à rentrer dedans parce que on est gentil, si je peux dire. Et il y avait à la fois Monsieur Rosmini, 80 ans, toutes les campagnes électorales du PS, il les a faites depuis à peu près 90 ans, et Marie Batou, et des jeunes femmes qui dirigeaient le service d'ordre, et Danny Cohen. Il y avait 3-4 vieilles personnes dans cette pièce. Rosmini, Danny Cohen, l'avocat qui s'occupe du logement, un ancien conseiller général, directeur de cabinet de Guérini, et moi. Le reste, c'était des jeunes gens qui faisaient de la politique souvent pour la première fois. Vraiment. Et ils s'intéressaient, mais souvent, c'est des jeunes qui sont actifs, mais qui ne sont pas inscrits, qui ne votent pas. Et là, il y a eu cette fusion réelle. Et je dis, de 7h du soir à 2h du matin, c'était ce mélange qui fonctionnait très bien. Marie Batou, qui était une jeune par rapport à Rosmini, et puis se passaient des trucs. Qu'est-ce que va dire Michel Rubirola? Elle écrit ça, mais il faut écrire ci. Donc il y avait une vraie fusion de ces courants, de ces âges et de ces générations politiques différentes.
Certains ont redouté, alors j'insiste là-dessus, parce que on a titré, nous, pendant la campagne, en reprenant le slogan de campagne, en le détournant, Rubirola est-elle vraiment là? Maintenant elle est là, elle est maire de Marseille. Le doute est, le doute a été posé comme ça, dans, y compris par des très proches, hein, d'un, on vient d'en parler. Est-ce que vous pensez que ça va être une mère à plein temps, certains disant elle va se laisser manger justement de fait de cette coalition par les plus pros de son équipe et par son premier adjoint qui lui a un parcours beaucoup plus classique.
Bien malin qui peut le dire, hein, ça. En matière de politique, je pense qu'il, je crois que ce qu'on a vécu ces deux ou trois dernières années devrait nous enseigner la prudence et la modestie à tous, hein, à tous les observateurs, et dire que bien malin ce qui va se passer dans six mois, etc. À part ça, je pense que, enfin, en tout cas, il nous semble que on l'a pas dit dans le texte qu'on a publié là. Il nous semble quand même qu'il y a aussi quelque chose de nouveau dans la manière dont se forme quelque chose d'un collectif. Et donc, je pense que Rubirola, oui, c'est une figure, c'est une mère, etc. Mais derrière, il y a un vrai collectif en train de se former. Il y a une véritable émergence d'un nouveau collectif dans lequel sont pris aussi les vieux caciques. Il ne faut pas donner plus de puissance qu'ils n'en ont aux vieux notables, aux vieux partis, etc. Ils sont pris aussi dans une machine collective qui, quelque part, va les modifier eux aussi. Donc, de toute façon, Rubirola, elle est Pola. Coppola, il était là. Payan, ils sont là, etc. Il y a une machine collective qui est portée et qui est aussi portée par un certain nombre de militants, par un certain nombre de... Voilà. Qu'est-ce que ça va devenir? J'en sais rien, mais je pense qu'il faut être très prudent sur les interprétations. Et peut-être que même si Rubirola, à un moment donné, laisse la place, peut-être que celui ou celle à qui elle va laisser sa place ne sera pas pour autant porteur d'une nouvelle politique. Il va être porteur de ce que le collectif porte.
Je voudrais insister sur ce point. Une première chose, on ne le dit pas, mais on l'a su à l'intérieur du Parti communiste, de ce qui restait du PS, de ce qui existait de la France insoumise, les gens n'étaient pas d'accord entre eux, du tout. Et ce qui est amusant, c'est que les deux formations politiques nouvelles apparues dans le paysage politique marseillais depuis une vingtaine d'années, qui étaient la France insoumise et la République en marche, qui n'existaient pas quand on a écrit Gouverner Marseille, qui ont 4 députés sur 8 quand même, ont fondu dans la campagne, disparu. C'est-à-dire la République en marche, une catastrophe, parce qu'il se présente, il n'y a qu'un secteur où il se présente au second tour et encore il fait 8%, quelque chose comme ça. Mais la France insoumise comme organisation aussi, ça ne veut pas dire les militants. Au contraire, beaucoup d'entre eux qui sont passés par la France insoumise sont maintenant aux affaires, d'ailleurs. Mais Mélenchon, tout le monde s'en fout. Il a essayé de dire unissez-vous, ils ne s'unissent pas, après vous avez bien fait de vous unir, mais tout le monde s'en fout, je veux dire, la question n'est pas là. Donc ce que dit Michel Peraldi est assez vrai, c'est qu'on ne sait pas du tout, au sens où c'est vraiment créer quelque chose de nouveau. Je répète, nous savons, et on n'a pas envie de le répéter, que à l'intérieur du PC, ça n'a pas été simple, hein. Ils se sont engueulés sérieux entre eux. À l'intérieur de France Insoumise aussi, ils se sont engueulés sérieux. Eh bien, ils ont réussi à faire une fusion qui a gagné. Quand je répète qu'elle a gagné, 10 000 voix de plus, même s'il y a eu confinement et très peu de votants, c'est sérieux, c'est pas une voix autant. La loi PLM, ça se joue à un siège près. Autant 10 000 voix de plus, c'est une vraie victoire, même si le corps électoral est très restreint.
Alors, arrêtons-nous justement sur cette explosion des partis, hein, que vous documentez. Alors, les marcheurs LRM... C'est spectaculaire et peut-être aussi ce qui singularise, je sais pas, Marseille dans cette séquence des municipales, c'est ce qui s'est passé ailleurs en France. C'est-à-dire qu'ailleurs en France, LR et les LRM ont fait une alliance de fait et ont parfois d'ailleurs sauvé des villes comme ça. Ici, c'est pas faute de tentative, mais ça n'a pas eu lieu.
Non, ça n'a pas eu lieu parce que La République en marche était toute neuve. Comme on l'a écrit d'ailleurs dans Marseille en résistance, une partie importante des acteurs de La République en marche, même des députés, venaient sincèrement de la gauche, pas du PS, mais là. Et voyant ce qui se passait, ils ont été absents. Ils ne se sont pas battus contre leur propre parti, ça commence maintenant, mais bon. Mais ils étaient absents. Et donc, La République en marche, monsieur Macron et madame et XY peut dire, il faut que ce soit le, j'oublie le nom, qui soit candidate, on s'en fout. En plus, c'est un mauvais candidat, mais le parti n'existe plus. Alors même que quand on écrit Marseille en résistance un an avant, ils disent, ouais, on va gagner Marseille, on va gagner la métropole. Ils croyaient ça, le chef. Eh ben, il a tout faux. Et il y a, à mon avis, il était très surpris. D'ailleurs, il nous avait dit aussi, moi, je me présenterai pas au municipal. Il se présente à Cassis. Enfin bon. Et donc, la France Insoumise, c'est le même processus. Voilà. Donc,
avec les militants, en plus, hein, ce que vous soulignez, c'est-à-dire que c'est à peu près, finalement, un fonctionnement gazeux, on va dire.
Fonctionnement gazeux, vertical, du haut vers le bas.
Mais des militants.
Et ça n'a pas marché. Il se trouve que le printemps marseillais a réussi. Et c'est en ça que c'est un peu différent de ce qui se passe à Grenoble ou d'autres villes avec les écolos et le PS ont fonctionné ensemble. Ici, c'est une espèce de nébuleuse un peu bizarre avec des gens du PC, des gens du PS, des collectifs urbains, des inconnus qui ont réussi à s'imposer et à gagner. Et Michel Peraldi va décrire un peu ce que ça change dans le conseil municipal actuel tel qu'il est sur les 101.
On va y arriver peut-être.
D'accord.
On va s'arrêter encore peut-être sur le RN parce que On pouvait s'attendre, ex-Front National, donc à ce que ce parti bénéficie finalement de l'espace et de la confusion politique, abstention, crise de succession, non. Y compris dans le 13-14, où pourtant, face à eux, il y avait une extrême division, éparpillement. Ils n'ont pas réussi à conserver la seule mairie de la ville, de secteur. Votre regard là, sur le RN.
Tant mieux. Donc, à part ça, le système politique aujourd'hui est devenu quelque chose d'extrêmement complexe. Moi, en vous écoutant, ouais, je presque de l'extérieur, je me dis mais c'est des machines qui sont extrêmement complexes. Le FNRN, c'est une machine politique, moi je trouve, d'une grande perversité. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont arrivés à s'ancrer dans un électorat, c'est-à-dire que on voit très bien qu'il y a en France aujourd'hui, et pas simplement à Marseille, il y a en France une population qui se reconnaît politiquement dans les éructations du FN, du RN, et dans cette conception très très guerrière, très guerre civile qu'ils ont de la politique et de toute une série de choses. Et en même temps, sur cette base idéologique et sociologique, ils n'arrivent pas. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas ou est-ce qu'ils n'arrivent pas? Ça, on le saura dans 50 ans, hein, quand les analystes politiques referont l'histoire. Ils n'arrivent pas, sur cette base-là, à devenir une sorte d'amis incontournables de la droite aujourd'hui. Et donc, du coup, le Front National ou le RN aujourd'hui, ils vont toujours tout seuls à la bagarre, et toujours tout seuls au combat, dans un système politique de plus en plus complexe où, sans alliance, on meurt. Et donc, voilà pourquoi ils ont perdu la mairie du 13-14. Donc, c'est à la fois très inquiétant, parce qu'ils sont installés dans le paysage, ils y sont dans le 13-14. Hein. Les gens qui ont voté pour eux, ils sont pas morts et ils n'ont pas changé d'opinion. Ce qui s'est passé, c'est juste ce qui s'est passé, c'est des déplacements à l'intérieur d'un microcosme dans lequel il y a tellement peu d'électeurs, tellement d'inertie sociologique que ça peut basculer avec 10 voix. Donc ils sont toujours là et en même temps, ils arrivent toujours pas à accéder au pouvoir. Donc moi je suis assez fasciné, et ce que décrivait Michel sur En Marche, la complexité aujourd'hui des machines politiques, c'est quelque chose que d'abord auquel on n'est pas habitué. Je crois qu'on n'a pas tous les instruments, on n'a pas tous les scalpels pour disséquer ça, y compris chez les politologues les plus pointus. On n'a pas tous les instruments pour disséquer ce qui se passe. C'est ce qui fait l'intérêt de Marseille. Hein. Marseille, c'est un laboratoire fabuleux du point de vue à la fois sociologique et politique. Mais là, sur Marseille, ça prend des formes qui sont absolument passionnantes. Voilà.
D'accord. Michel Sanson, le RN, c'est cyclique.
D'abord, le RN, c'est cyclique. Deux, le RN n'augmente pas ses voix. On dit toujours que, mais je crois que j'ai déjà dit à ce micro il y a quelques décennies, j'ai fait 3 pages dans Libération expliquant le parti Front National est nouveau, c'était il y a 25 ans. Ça fait 25 ans que c'est un parti nouveau. Bon, pas du tout. C'est un vieux parti qui s'est inscrit dans une tradition politique française horrible, ignoble, est un parti, je suis pas tout à fait d'accord avec Peraldi Michel, qui déteste toute alliance. Ils sont contre. Eh ben, les gens le comprennent. Même les gens qui veulent faire accord avec eux, ils n'y arrivent pas. Il y a Mariani, ce con que s'intéressait par personne. Mais c'est tout. La droite, il y a des gens qui vont voter, mais Madame Vassal, elle veut pas faire accord avec eux. Elle sait qu'il fera que l'insulter. Quand on assiste au conseil municipal, ce qu'on a fait pour gouverner Marseille et pour Marseille Résistance, Ravier insulte nominalement X, Y, y compris les absents. Il parle de SOS Méditerranée. Tout le monde s'en fout. C'est pas la question. Et il fait que ça. C'est la seule chose qu'il fait. Après, il met sa nièce, parce que là-bas, c'est de père en fils et de famille en famille. Ils sont contre le népotisme, alors qu'ils sont népotistes au carré. Donc, ils sont cinglés. Et donc, moi, je pense, je ne les supporte pas, il me faut même plus rigoler, mais je les crains même plus. Parce que, il a refusé. Et, au jour du conseil municipal, il s'est cassé. Il est même pas resté pour le vote. Tellement il se rendait compte qu'il avait l'air con avec ses 8 voix, dont tout le monde se foutait. Et ça me fait assez plaisir, mais le fait qu'il déteste toute alliance, à mon avis, c'est pas si compliqué que ça de comprendre que les gens n'arrivent pas à s'allier avec eux. Et aux prochaines présidentielles, ce sera, si jamais elle est là, la même chose. Elle perdra. C'est heureux à dire.
Bon, autre surprise du scrutin, RN, LR, pardon, là, le lapsus, LR qui partait objectivement, et puis derrière LR, au-delà LR, c'était l'héritière, Martine Vassal, à la tête quand même d'une... d'institutions puissantes, à savoir le département qui est le poumon économique du territoire et de la métropole et de deux, elle partait quand même avec une puissance de feu extrême, avec la dynamique des sortants. Alors peut-être que justement c'était pas si dynamique que ça. Il y avait aussi le bilan. Comment vous expliquez l'explosion? Il y a une dissidence, évidemment, Bruno Gilles, sénateur longtemps porteur de valise de la droite marseillaise, qui était en dissidence. Mais là aussi, il aurait été tellement simple, c'est facile de dire ça avec du recul, de se rabibocher entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Cette Martine Vassal qui est pourtant loin d'être une idiote.
Beaucoup de choses. Alors, je vais arrêter de dire que c'est complexe, parce que sinon Samson il va me quitter, donc ça serait dommage.
Pas de divorce en direct.
Ouais. Donc, ceci dit, je le pense quand même très fort. Je pense que c'est effectivement très complexe. D'abord, il est clair aujourd'hui. Alors là-dessus, il y a beaucoup de politologues qui ont écrit. C'est les conditions même du théâtre politique qui ont changé en France et partout ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le théâtre politique ne se fait plus du tout de la même façon, et que la personnalité médiatique, c'est-à-dire cette espèce d'avatar que produisent les hommes et les femmes politiques dans les médias, est devenu le personnage à partir desquels ils sont élus ou pas élus. Chaque personnage politique aujourd'hui se fabrique un avatar, construit sa vie privée, se construit en montrant sa vie privée, montre ses enfants, etc., ses ancêtres, machin, montre ses loisirs et tout ça. Donc, il se construit un avatar qui est fait aussi d'opinions sur les choses, etc. Cet avatar médiatique, aujourd'hui, est devenu essentiel pour être élu. De ce point de vue-là, il faut être, je pense, tout à fait objectif en disant que Martine Vassal, elle a loupé la construction de son avatar politique. C'est-à-dire qu'elle est, capable d'être présente dans les médias, mais de façon extrêmement figée. Elle est très peu présente dans les médias qui comptent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vue sur le divan de tel ou tel présentateur de télé vanter sa vie plus privée, etc. Donc, je crois que pour l'instant, peut-être qu'elle aura le temps ensuite et qu'elle embauchera les conseillers qu'il faut, mais en tout cas, je pense qu'elle a loupé son avatar médiatique.
Vous avez des mots durs, hein, vous parlez de campagne ringarde.
Ben oui, parce que elle a fait une campagne qui relève de ce paléolithique de la politique où c'était les discours qui comptaient, les discours en public, etc. Et encore une fois, elle a à mon avis loupé son avatar médiatique. Du coup, c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'elle a pas été élue. Après, il faut dire quelque chose d'un peu contradictoire, c'est-à-dire que au fond, peut-être que alors je je dis ça aujourd'hui, et donc si Samson veut dire le contraire, et comme on n'en a pas discuté, on peut avoir un débat là-dessus. Aujourd'hui, moi, il me semble que, en fait, Marseille, c'était un peu un baroud d'honneur. C'est-à-dire que la droite, aujourd'hui, a accumulé une puissance politique assez phénoménale. C'est-à-dire qu'ils ont la métropole, et ils ont la métropole dans laquelle toute une série de délégations sont passées depuis les communes jusqu'à la métropole. Ils gèrent le transport, ils gèrent le logement, etc. Donc, elle a une puissance énorme. Elle a le Conseil général. Ils ont, même si il y a des ajustements à faire, ils ont le Conseil régional. Donc, j'ai l'impression que Marseille, c'était une sorte de baroud d'honneur pour essayer peut-être d'avoir un peu plus de puissance, pour essayer précisément d'être dans la ligne de son successeur, etc. La campagne a été loupée. Elle a loupé sa campagne. Le Covid n'a pas facilité les choses, etc. Voilà. Mais c'est une... Si on le voit à l'échelle de la puissance accumulée par la droite aujourd'hui dans les institutions politiques, on peut penser que c'est une péripétie et que c'est pas quelque chose de fondamental.
J'ajoute que c'est pas du tout contradictoire. Il s'est passé aussi une mobilisation en face, plus massive que prévu, dans Gouverner Marseille ou dans je ne sais plus où. On avait écrit que les gens qui étaient pour Mélenchon étaient dans un secteur où les gens votaient le moins. Or là, quand on regarde les bureaux, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas allés voter à cause des confinements, à cause de cette incroyable campagne électorale qui dure et s'arrête et repart, mais ces jeunes-là ou ces anciens-là se sont mobilisés. Alors qu'en face, peur de Covid, ou la Covid, je sais plus comment on dit, ou autre, les gens ne se sont pas mobilisés. Et donc il y a eu une mobilisation inverse qui explique aussi, outre ce que vient de dire Peraldi sur son incompétence électorale, il y a aussi le fait de je suis l'héritière, tout le monde a compris qu'elle était l'héritière, elle était désignée par Godin, explicitement, c'est mon héritière. Il l'a dit, Claude Bertrand nous l'a répété, donc voilà. Et le fait qu'il y ait les effondrements de la rue d'Aubagne qui fassent renaître une mobilisation de gens qui étaient souvent inscrits mais qui n'allaient pas voter, etc., fait que ça a permis à cette jeunesse, quand je dis jeunesse, c'est pas seulement en âge, c'est ce renouveau de la politique, des gens du Centre-ville pour tous, des gens du collectif ceci, du collectif cela, évidemment de la rue d'Aubagne, tout ça autour, eux ont eu envie d'y aller parce qu'ils pensaient que Godin, la mairie, pas Monsieur Godin, était responsable de effondrements, des 8 morts plus de madame dont j'oubliais le nom, après le 5 novembre, c'est le 5 novembre, je crois. Oui, voilà. Et donc, je pense que c'est ce basculement a joué un rôle, pour le coup, majeur. On souligne, d'ailleurs, je sais pas si c'est là ou dans Marseille en résistance, que les trois grandes manifestations après les effondrements de la rue d'Aubagne sont les plus grandes manifestations à vocation, à initiative locale, depuis les manifestations de la mort d'Ibrahim Ali. On parle pas des manifestations intersyndicales, CGT, CFDT, FO, contre les retraites, qui sont des manifs nationales. Un événement local créant trois manifestations aussi importantes que celle de la rue d'Aubagne, on n'avait pas eu ça depuis la Canebière, noire de monde à tous les sens du terme, au moment de la mort d'Ibrahim Ali. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc ça a manifesté une effervescence dans la ville. Ça rejoint ce qu'on disait sur l'émotion. À la manif, la première... Il y avait des députés de la République En Marche. Il y avait des gens qui n'avaient jamais manifesté. Il y avait les traditionnels manifestants que nous sommes de 60 ans, ça fait 40 ans qu'on fait le 1er mai. Mais il y avait aussi la première personne qui a parlé devant la mairie, parlait mal français. Et puis il y avait une femme voilée qui ne savait pas quoi dire. Et ces gens étaient là. Et en même temps des vieux de la politique. Et ben cette fusion s'est traduite aussi sur le plan électoral, ce à quoi nous ne nous attendions pas d'ailleurs, Peraldi et moi qui sommes pourtant des experts mondiaux de la question.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Alors une petite tradition maintenant dans cette émission, nos invités choisissent un titre et je vous dirai après lequel Michel a proposé le premier le titre et voilà, c'est la surprise, on fait du teasing. Et donc là on s'éloigne de Marseille, on va dans le Vercors, on va sauter en élastique.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore.
Alors c'est Michel Sanson hein, qui a sauté un élastique le premier. Bon, et revenons à Marseille, au printemps marseillais, parce qu'on vient de parler de LR et d'une campagne ratée, mais on l'a suivi, on n'était pas les seuls dans ce studio. Cette genèse de ce printemps marseillais, elle a été rocambolesque, elle est passée par des écueils très peu de gens supposaient que ça allait arriver à son terme. Et en particulier, justement, dans la foulée des mobilisations sociales autour de la rue d'Aubagne, les états généraux de Marseille qui ont eu lieu, les collectifs qui sont nés, ont eu un rapport très compliqué avec l'échéance politique, avec la nécessité de se fédérer autour d'un rendez-vous électoral. Et il y a eu beaucoup de réticences, beaucoup de doutes, voire même, au départ, une accusation vis-à-vis du printemps marseillais d'avoir volé finalement une dynamique et d'avoir chosifié dans une collection d'étiquettes politiques et d'un montage finalement très classique un mouvement qui le dépassait. Votre regard.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, nous tenions à écrire cette nouvelle vague parce que dans l'épilogue de Marseille en résistance, donc on a écrit, je répète, en octobre alors que les élections étaient en mars. Un, on savait pas qui étaient les candidats, par Madame Vassal et Ravier, le Front National, on savait pas. Et on constatait qu'effectivement, c'est plus que ça divergeait, ça s'engueulait, ou même il y avait des gens qui comprenaient même pas que ce soit important, et d'autres comprenaient. Donc le fait qu'il y ait eu ce bouillonnement a traduit aussi des gens. Alors nous, on dira pas aux élections, donc après c'est tel mouvement qui se crée, une partie du collectif Noailles, enfin de militants, plus du tout, on n'y va pas. Ben Saada, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans 13-14. De toute façon, les élections, ça ne vous intéresse pas, je me présenterai tout seul. Bon. Donc il y a eu ces divergences énormes. Et ce qui nous a intéressé, quand on a vu le résultat des élections et les derniers moments d'élections, c'est qu'en fait, ça ne s'est pas cristallisé, c'est le contraire qui s'est passé. Alors, pourquoi ? J'en sais rien. En revanche, Même chose. Les partis, on veut pas entendre parler. Mais on se rend bien compte aussi que c'est utile quand même d'avoir un parti, d'avoir des militants, de savoir ce que c'est qu'un comment tenir un siège électoral, enfin, une urne, etc. Et donc, il y a une espèce de fusion qui s'est faite, et je crois vraiment que ça s'est fait en pratique entre les tours. Enfin, avant le premier, c'était pas clair. Et puis, peu à peu, ça s'est fait. Alors, pourquoi? Parce que les gens se sont parlé, parce que les gens se sont engueulés, et puis qu'ils se sont rendus compte, pour l'essentiel d'entre eux, que finalement, si c'était ça, Gaudin allait rester. Et que l'air de rien, ce ciment, et ça explique aussi la défaite de Madame Vassal, c'est-à-dire, quand même, si on n'arrive pas à s'entendre, eh ben, Gaudin sera réélu, et Martine Vassal, d'ailleurs, pensait ça elle aussi. Pour être honnête, je me souviens avoir croisé Martine Vassal un mois ou pour quelques semaines, pas tellement avant le premier tour, sur la Canebière, elle paradait avec Berlusconi, je sais pas quoi, comme on s'entend bien, elle nous a reçus pendant une heure et demie pour préparer le livre, elle savait ce qu'on faisait, elle était à peu près sûre d'elle, quoi, tranquille. Oui, vous savez, Michel, c'est difficile, mais on va gagner. Non, j'ai pas eu le temps de lire votre livre, mais bon, voilà. Donc cette certitude-là a fait aussi que les incertitudes d'en face ont fondu. Alors, on va revenir à ce que Michel Perle disait tout à l'heure. Comment ça se fait, comment ça se passe? On sait pas. Il se trouve que nous, on raconte que ça s'est passé. Mais la raison, le pourquoi. Nous, on est plutôt favorable à décrire les choses. Le comment des choses nous importe plus souvent que le pourquoi. Parce que le pourquoi, on ne sait pas. Mais comment ça se passe? Ben, ça se passe autour d'un, chez Madame Fortin. On mange ensemble. Il y a X, il y a Y.
Ça, c'est Mad-Mars, le collectif Mad-Mars, Fortin.
Oui. Exactement. Mad-Mars, pour être honnête, dans Gouverner Marseille. Non, pardon. Marseille, on se moque un peu d'eux. Nous, Péraldis en sont un. Donc, on sait tout. Ben, on n'y croyait pas trop. D'ailleurs, Michel était de réunion de Mad-Mars. Et il m'a dit à la sortie, je sais plus ce qu'on a écrit. Oh, c'est pas trop sérieux, ce machin. Je sais même plus si on en a parlé dans Marseille en résistance. Oui, un petit peu, mais on se moque d'eux. Nous, on se moque d'eux. Donc, on n'a pas compris. Et donc, on préfère dire comment ça s'est passé. Ben, on a discuté. Et d'ailleurs, Madame Fortin, si mes informations sont justes, elle voyait contre Gaudin un fond qui prenait un peu la République en marche aussi. Et puis quelqu'un ou quelques-uns disent « Ah non, 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 pas eux. Ah bon, ça c'est... Ok, pas eux. » Et puis Madame Fortin est élue dans le 8-10 d'ailleurs.
Le
6-8, pardon. Écolo, gauche, démocratie chrétienne, un petit morceau, on suppose. Voilà.
Le bastion de la droite marseillaise.
Le bastion de la droite marseillaise. Mmh. Alors, pourquoi, comment? Un, je pense qu'il y a eu démobilisation de la droite. Un, à cause de la maladie. Il ne faut pas nier ça, parce que les votes qu'on analyse dans le détail sont extrêmement faibles par rapport aux inscrits. Et puis, je pense pour le coup que l'échec Gaudin et de son incompétence après les effondrements, quand on pense qu'il refuse, lui, de recevoir le collectif Noailles alors que le préfet de Normandie le reçoit à la préfecture, pour la démocratie chrétienne, c'est un peu choquant quand même. Même si je pense que Gaudin pleurait le soir dans son lit parce qu'il est vraiment chrétien, en même temps, il a une attitude rude, déplaisante. Je pense que ça a démobilisé aussi de son côté. Alors, je répète, nous, on préfère le comment. Pourquoi? On raconte que ça s'est passé. Pourquoi du comment? Peut-être que Peraldi a la réponse, ou Dieu, mais je sais pas.
Non. Dieu, on n'a pas de Dieu dans le studio, c'est dommage. J'ai essayé, j'aurais bien aimé pour la rentrée.
Ouais, c'est Peraldieu, c'est ça.
Non.
D'abord, je tiens à dire que j'aime beaucoup la chanson de Bachung. Hein, que, voilà, pas de dissidence de ce point de vue-là. Voilà. Non, je pense encore une fois que la nouvelle donne marseillaise, la nouvelle vague marseillaise, elle est aussi le produit de 20 ans d'histoire. Et mine de rien, je repensais à ça en écoutant ce que disait Michel, il me semble que les dernières municipalités Gaudin ont été la manifestation d'une vraie rupture, non seulement à l'intérieur de la droite locale, mais à l'intérieur de la bourgeoisie qui les porte. Et de fait, comme les choses se jouent sur de tout petits écarts, il faut encore une fois insister sur cette inertie des scores électoraux à Marseille. Ça se joue sur de tout petits écarts. Bah, il suffit que effectivement une partie de la vieille démocratie chrétienne ait abandonné Gaudin parce qu'ils n'ont pas du tout aimé la manière dont ont évolué ces bien avant Vassal, hein, la manière dont est évalué ça. À évoluer sa politique pour que ça produise l'émergence du printemps marseillais sans du tout leur voler la victoire. Je pense quand même que le printemps marseillais est aussi massivement le produit de la défaite de la droite. C'est-à-dire c'est la droite qui a perdu tout autant qu'une nouvelle gauche qui a gagné. Il faut là-dessus rester lucide et modeste. Hein, aussi.
Sur la question des petits écarts, allons-y directement sur le sujet, parce qu'il est quand même central sur cette élection-là. L'abstention, qui est toujours élevée à Marseille, mais alors là, vous rappelez les chiffres, c'est seulement 20,62% des votants qui se sont exprimés au second tour. C'est 179 475 exactement votants sur 870 000 et quelques habitants. C'est et pour autant, ça se répartit. On en a dit un mot tout à l'heure, mais c'est pas partout pareil. Là, il y a des l'analyse montre que l'abstention est généralisée, mais il y a des pics.
Ouais.
Et là, qu'est-ce qu'il faut regarder alors ? Qu'est-ce qui sort de l'analyse des chiffres là-dessus ?
D'abord, comme tous les phénomènes massifs, c'est souvent des phénomènes qui laissent sans voix tellement c'est massif, quoi. Donc, je veux dire, on voit ça avec. On est quand même revenu à des chiffres qui sont aujourd'hui assez proches de avant le système électoral. C'est-à-dire que on est au niveau du système censitaire. Donc, là-dessus, je pense que tous les sociologues et tous les politologues devraient se mettre aujourd'hui autour d'une table et discuter de ce phénomène qui est d'ailleurs pas particulièrement marseillais. Il est particulièrement accentué à Marseille, mais il n'est pas particulièrement marseillais. L'abstentionnisme à Marseille, il est lié à mon avis à trois phénomènes. Premier phénomène, c'est l'abstentionnisme des mondes populaires qui aujourd'hui sont à des années-lumière du système électoral tel qu'il est construit. Et donc ça, c'est un phénomène politique sur lequel tout le monde devrait se pencher et s'inquiéter parce que c'est un phénomène très inquiétant. Je veux dire, les plus forts taux d'abstention sont dans le 13, 14, le 15, le 16.
Donc on
a là des taux qui sont ahurissants. Et donc, c'est effectivement les mondes populaires qui sont porteurs de cette abstention. Le deuxième phénomène qui est très conjoncturel, c'est effectivement, comme le dit Sanson avec un peu de malignité, dans la mesure où la droite est plutôt élue par des plus de 60 ans, comme c'est les populations à risque du Covid, ils ont préféré rester chez eux qu'aller voter. Voilà, donc ça signale simplement le fait que la droite est ancrée chez les plus de 60 ans. C'est un phénomène très conjoncturel, mais tout à fait réel sur Marseille, qui est par ailleurs une ville dans laquelle les populations les plus de 60 ans sont assez importantes. Bon, troisième phénomène, qui est le phénomène, à mon avis, le plus compliqué à analyser, c'est que il y a toute une partie de gens aujourd'hui qui sont des citadins sans pour autant être des citoyens. C'est-à-dire que ils vivent à Marseille, ils vivent de Marseille, ils ont quelque chose à faire à Marseille, mais eh ben ils habitent ailleurs ou ils circulent dans cette ville, etc. qui font qu'aujourd'hui il y a un véritable écart entre la citadinité, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la ville et de la ville, et la citoyenneté. Et cet écart-là, à mon avis, aujourd'hui, il se constate de manière extrêmement visible dans les urnes. Je prends un exemple sociologique, c'est les populations d'étudiants. Il y a aujourd'hui 60 000 étudiants à Marseille. C'est énorme et ça fait des étudiants une des principales composantes sociologiques et démographiques de la population marseillaise. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'étudiants que d'ouvriers à Marseille. Référence au vieux passé industriel de Marseille, c'est pareil comme révolution. Marseille est devenue une ville étudiante. Est-ce que ces étudiants votent ? Bien sûr que non, beaucoup moins que les autres, soit par défection, soit parce que ils sont inscrits chez leurs parents, soit parce qu'ils s'en foutent, soit parce qu'ils circulent et qu'ils n'ont pas pris le temps de s'inscrire, etc. Donc toute une série d'écarts, encore une fois, parce que pour le coup, eux, ils vivent à Marseille. Et les étudiants, ils sont très présents dans les comités, ils sont très présents dans les collectifs, ils sont très présents dans les manifs, etc. Donc il y a une sorte d'écart aujourd'hui entre citadinité et citoyenneté, et je pense que les faibles résultats qu'on avait à Marseille sont porteurs de ces trois phénomènes.
Avec ceci, oui, évidemment, c'est clair ce que vient de dire Verdi. Simplement, il se trouve que, et je reviens sur cette histoire, ce drame de la rue d'Aubagne, il se trouve que, justement, ces étudiants qui sont massivement présents à la rue d'Aubagne, qui est un quartier d'étudiants, et de commerçants. C'est pas contradictoire. C'est pas du tout un quartier gentrifié, selon ce terme que nous détestons, Michel et Michel. Bien. Eh bien, il se trouve que ces jeunes gens, une partie d'entre eux, puisqu'on est sur des corps électoraux très très faibles, sont allés voter. Et Sophie Camard, elle fait plus de 80% dans les trois bureaux autour de la rue d'Aubagne. 80% des votants. Donc, c'est bien ceux-là qui sont venus voter. Et ils ont permis au printemps marseillais de bénéficier de, du résultat électoral. Alors, on est bien d'accord, ça joue sur de très très petites couches, de petits nombres, mais il se trouve que ce petit nombre a, avec tous les, ce qu'on vient d'expliquer avant, fait que finalement c'est le printemps marseillais qui a gagné. Ça n'empêche pas que, et on y reviendra, ces populations étaient en plus absentes sur le corps électoral, mais aussi dans le conseil municipal, totalement absent.
Alors justement, il nous reste un quart d'heure et voilà. Consacrons-le à cette nouvelle donne, c'est-à-dire les élus. Bon, premier chiffre, et là, finalement, ça s'écrit quand même un petit peu, on a l'impression, hein, à vous lire, pas en faux, mais en dissonance avec ce que vous disiez sur le printemps marseillais, cette fusion entre les nouveaux acteurs, les vieux militants, mais au niveau du conseil municipal, des adjoints, c'est une première, vous dites, il n'y a jamais eu, depuis 50 ans, autant de pros de la politique parmi les adjoints, ils sont 30%.
Ouais, ben, Michel analyse ça fort bien.
Non, alors, qu'est-ce qui se passe là entre ce printemps?
Il est meilleur en chiffres que moi. Moi, je suis bon pour rien du tout.
Donc, voilà, depuis 50 ans, vous n'avez pas vu ça.
C'est un phénomène important et tout à fait, mais c'est pas un phénomène nouveau, c'est-à-dire que ce lent grignotage de la politique par les pros du politique, c'est une vieille histoire et ça se concrétise, et moi je pense que ça montre bien que le printemps marseillais est pas du tout un coquelicot qui a émergé au milieu d'un champ de blé. Le printemps marseillais est porté par des tendances lourdes de fond de la gauche nationale, hein. Donc la présence des pros en politique, elle était aussi très manifeste dans toutes les différentes campagnes qu'on a vues de la gauche. La seule chose, c'est que comme la gauche a perdu beaucoup d'élections, on s'est pas rendu compte qu'il y avait une augmentation des pros de la politique. Là, on les voit apparaître parce que ben, tout d'un coup, ils arrivent au pouvoir, quoi. Donc voilà. Mais cette professionnalisation de la politique, à mon avis, c'est une vieille tendance, pas simplement à gauche d'ailleurs, mais qui était aussi très présente à droite, dans l'ancienne municipalité Gaudin d'ailleurs, hein, la présence des pros de la politique était aussi assez significative.
D'accord. Et par contre, une autre famille moins attendue, alors c'est celle que vous nommez celle des créatifs, hein, qui arrive juste derrière.
Ouais. Alors là-dessus, oui, je pense que ça, c'est véritablement la nouveauté de cette élection, et c'est véritablement aujourd'hui les transformations sociologiques auxquelles il va falloir s'intéresser à Marseille. Le travail qu'a fait la Fondation Jean Jaurès va dans ce sens, avec une différence. Je crois qu'on n'est pas du tout d'accord sur le fait que ces créatifs seraient des néo-marseillais ou des nouveaux marseillais. On a analysé dans Marseille Résistance, on a analysé de manière un peu ethnographique qui sont ces créatifs.
C'est quoi un créatif? C'est quoi?
Les créatifs, c'est des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont des professionnels de la culture, on va dire. Voilà, pour simplifier.
Des cultures, hein, au sens large, ça peut être un événement, pas forcément du théâtre.
Hein. Ouais. Non, c'est la culture au sens large, c'est les journalistes, c'est l'énorme masse des gens qui ont été impliqués dans Plus belle la vie, la friche de la Belle de Mai, etc., etc. Donc, c'est toutes ces industries culturelles aujourd'hui qui sont porteurs de types d'emplois très particuliers, d'ailleurs.
Eux, ils n'étaient pas dans les rangs des adjoints de la municipalité sortante, Jean-Claude Gaudin.
Non, pas du tout. Et justement, c'est là, je pense, que l'erreur qu'a fait la droite. Mais est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une impossibilité? Je sais pas, ça, l'histoire le dira. Ce qui est clair, c'est que la droite a été incapable de mobiliser ces gens-là. La droite mobilise la culture sur une partie très très pointue de certaines industries culturelles, notamment du côté des arts décoratifs, du côté de la peinture, etc. Donc ils ont été incapables de littéralement de mobiliser les mondes de la culture. Je pense que c'est une des raisons qui font qu'ils ont perdu. Donc ces créatifs à Marseille, c'est véritablement aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire, les nouveaux mondes du travail à Marseille. Voilà, c'est ça. avec en face, parce qu'il faut, toujours, à mon avis, même si je vais passer pour un vieux Marxo, il faut toujours dialectiser les choses. On peut pas voir les créatifs, c'est-à-dire l'émergence des industries culturelles dans la ville et le type d'emploi qu'ils portent, on peut pas les voir sans leur vis-à-vis qui sont ce que nous, on a appelé une petite bourgeoisie affairiste et subalterne. C'est-à-dire des promoteurs immobiliers, des vendeurs de lavande pour les croisiéristes, etc. C'est-à-dire toute une série de commerçants.
Ça, c'est les sortants, c'est ça ?
Ça, c'est les sortants. Sortants politiquement, oui, mais pas sortants de la ville. Ils existent toujours, les croisiéristes existent toujours. Et donc, cette petite dynamisation d'une bourgeoisie d'affaires affairiste et commerçante à Marseille, elle existe. Et ils sont les vis-à-vis et les opposés, en quelque sorte, de cette classe créative. Donc, il y a là une sorte de nouvelle dialectique et de nouveaux fronts sociaux qui émergent et qui expliquent notamment que les vieilles élites, enfin vieilles élites, c'est un peu excessif de dire ça, mais les vieilles élites sociologiques, c'est-à-dire les cadres sup, les hauts fonctionnaires, etc., qui sont les avocats, les médecins, les etc., les professions libérales, qui sont l'ancienne élite sociale à Marseille, a en quelque sorte s'est fractionnée et a basculé pour partie dans le camp des affairistes et pour partie dans le camp des créatifs. Et donc, on a, je crois que les élections à Marseille sont aujourd'hui révélatrices de ce nouveau front de classe qui s'est aujourd'hui ouvert dans la ville et qui est tout à fait inédit sur 400 ans de l'histoire locale. Donc, c'est assez passionnant de l'observer. J'ajoute juste un point, parce que je pense que c'est important. On se fait souvent taper sur les doigts par les politistes sur la spécificité, la singularité marseillaise, etc. De ce point de vue-là, Marseille n'est absolument pas singulière ni spécifique. Ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé à Lyon, ce qui s'est passé à Lille, ce qui s'est passé à Bordeaux ressemble beaucoup à ce qui se passe à Marseille. C'est-à-dire, tout d'un coup, une classe créative, alors qui est très localisée, parce que ça dépend très fortement des conditions locales. Donc, chaque situation est différente, mais en même temps, cette classe créative qui porte, d'une manière générale, une certaine attention à ce qu'on peut appeler une gauche écolo, c'est pas spécifiquement marseillais. On a exactement la même chose à Paris, on a exactement la même chose à Lyon. À Lille, Martine Aubry, elle est passée tout juste et elle va être obligée de faire de la politique écolo. À Bordeaux aussi, etc.
Et à Grenoble.
Donc, de ce point de vue-là, c'est la France métropolitaine, moi j'ai envie de dire, qui est l'expression de cette nouvelle classe créative et peut-être de ce front de classe, justement.
Oui, ce qu'il y avait de nouveau, pour ce qui concerne les 101, c'est qu'effectivement, ces nouveaux créatifs et autres sont présents. Alors qu'avant, ils n'étaient pas présents du tout. Je pense d'ailleurs que l'équipe Gaudin-Vassal ignorait absolument l'existence de ces gens-là. Comme quand on assistait au conseil municipal qui parlait de la rue d'Aubagne, j'ai l'impression qu'ils n'avaient jamais été de leur vie faire les courses à la rue d'Aubagne. Ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, c'est pas très important. Évidemment, le petit commerçant va parler avec Sabine Bernasconi. Mais le fait qu'il y ait des centaines de gens, artistes et autres, on s'en fout, on les connaît pas. Et je pense que c'est une partie des faiblesses, tant mieux, de la droite gaudiniste, c'est qu'ils ne savaient même pas ça. De la même façon, on assiste, parce que vous savez, enfin, tu sais que quand on écrit un livre, nous, là, on l'a écrit vite, la nouvelle vague, mais l'autre, on travaille sur 2 ans quand même. Hein, on voit des entretiens d'une heure et demie, etc. On assiste à un conseil municipal qui dure, il y a 1h30 sur les plages. Je te promets que sur les 101, à mon avis, aucun n'allait à la plage tous les jours de la Pointe-Rouge. Ils allaient au cercle des nageurs. Et ils savaient pas ce que c'était que les plages. Ils connaissaient les flics, ils connaissaient les maîtres nageurs, mais aller à la plage de la Pointe-Rouge, ils savent pas. Et donc, je pense que cette incompréhension de la ville, ils connaissent les bureaux électoraux par cœur, mais ils savent pas ce que c'est que la plage, et ils vont jamais faire la course rue d'Aubagne. Et ben, tant pis pour eux.
Il y a par contre un autre phénomène que vous pointez, là, dans ces 101, hein, c'est-à-dire les adjoints, les élus, pas sans les adjoints, hein, on est bien d'accord. C'est la fonction publique qui est mieux représentée, curieusement. Alors, je dis curieusement parce que, quand même, Marseille en est bien pourvu en fonctionnaires. Et vous dites que c'est une ville de classe moyenne. Donc là, il y avait, ils étaient moins présents dans l'équipe Gaudin et visiblement c'est beaucoup plus le cas dans les mairies de secteur en regardant les chiffres.
Ouais, alors il y a deux choses qu'il faut dire rapidement là pour sur cette affaire. Première chose, c'est que les avocats, les médecins et les profs sont depuis l'invention de la démocratie représentative les catégories classiques dans lesquelles les politiques vont chercher leurs représentants. Voilà, y compris parce que c'est des phénomènes de conversion de réputation. Quand on est un médecin et qu'on est connu, c'est plus facile d'être élu que quand on est etc. Voilà. Donc ça c'est un vieux train, une vieille tendance de la politique française. Gaudin a rompu avec ça. Et c'est pas rien. C'est pas une petite affaire. Et toute proportion gardée, moi, je pense que les historiens dans 20 ou 25 ans diront, il y a eu une sorte de hold-up de la petite bourgeoisie affairiste. Il y a eu un petit hold-up sur la droite traditionnelle qui, tout d'un coup, a disparu. Et donc, ces avocats, ces médecins, ces profs ont disparu dans les années 2000, c'est pas vieux du tout, ont disparu de la représentation politique. La gauche s'effondrant, ils étaient plus très présents. Et à droite, Gaudin les a sortis. Et il les a sortis au profit de promoteurs immobiliers, de petits commerçants, d'entrepreneurs, d'avocats, mais qui étaient des avocats d'affaires. De médecins qui n'étaient plus des médecins mais des chefs de clinique ou des représentants d'intérêts, etc. Donc tout d'un coup, on a vu une sorte, encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humour, mais une sorte de coup d'État de cette bourgeoisie affairiste.
Cette petite bourgeoisie affairiste.
De cette bourgeoisie affairiste sur la municipalité et qui a permis d'ailleurs, à mon avis, des bénéfices assez colossaux, qui a permis la construction de Romed, etc., etc. Donc, il y a aussi une sorte de retour, presque de revanche, des fonctionnaires publics et de ces catégories traditionnelles de la politique sur ce coup d'État qui avait été porté par Gaudin.
Alors il nous reste quelques minutes, il va falloir faire court, mais peut-être pour se projeter et quand même mettre l'accent là-dessus, vous soulignez donc dans cette nouvelle majorité, pour les 6 ans qui s'ouvrent, un monde qui est très absent, c'est celui de l'absence des mondes populaires dans cette équipe dirigeante.
Absolument. Ouais. Il y a un peu plus de noms non chrétiens sur les 101. Ok, ça compte, on verra bien ce que ça donne. Mais effectivement, la question est d'autant plus complexe que, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, et la métropole, et qui va décider de l'habitat et de la circulation, c'est ça. Et donc, les mondes populaires sont absents. C'est pas tout à fait nouveau. Ça continue. Par contre, ce conseil municipal dit qu'il va s'en occuper.
Et oui, donc il y a une promesse d'être porte-parole d'un monde qui n'est pas représenté.
Ça, c'est moi qui le dis, et je ne sais pas si je suis d'accord, je m'en fous. Il se trouve que je constate quand même que depuis 4 mois qu'ils sont là, il y a des choses que je trouve, moi, me plaisent. Quand il y a un camp gitan qui brûle, avec un homme qui en meurt, il reloge tout de suite, il s'occupe, etc. Donc c'est mieux. Pareil sur le confinement, je pense qu'il s'en occupe plus que Gaudin, qui pendant le confinement a été d'un silence mortel, parce qu'il, je crois qu'il mourait de peur à tout point de vue, et là ils sont plus présents. Mais est-ce que ça va tenir? Et de toute façon, que peut la municipalité sur la ville? C'est une question un peu plus complexe sur laquelle Perraldi a des idées très claires.
Marseille, quand même, qui est une ville pauvre.
Mais dans une autre émission.
Mais un mot, quand même, Marseille, ville pauvre. Même cette classe créative, elle a une spécificité à Marseille, c'est qu'elle est composée de beaucoup de précaires. Enfin, donc, il y a quand même beaucoup de pauvreté dans cette ville. Ils ne sont pas parmi les membres du printemps aux commandes. Hiatus.
C'est comment dire, bien malin là encore une fois, qui peut dire ce qui se passe. Mais je veux dire, je soulignais l'absence aujourd'hui, ou plutôt la grande présence des mondes populaires dans l'abstention. Ça veut dire qu'il faut réinventer quelque chose d'un contrat social, quoi. C'est-à-dire que il faut aujourd'hui, quand les bourgeois et les ouvriers étaient face à face et dans des bagarres très fortes, dans le Parti communiste était le porteur d'un côté et la droite catholique de l'autre. Je veux dire, il y avait des intérêts communs. Les ouvriers et les bourgeois portaient quand même des intérêts économiques communs. Aujourd'hui, où sont les intérêts communs des mondes populaires qui sont des mondes de la précarité, qui sont des mondes du chômage, qui sont des mondes du retrait radical des mondes du travail, ces élites politiques, c'est très très compliqué à imaginer. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, Tous les travailleurs précaires sont des clés absolument, sont des médiateurs sociaux formidables qu'il va falloir utiliser et qui vont justement permettre peut-être de trouver de nouvelles manières d'être en face à face, en vis-à-vis ou ensemble entre les mondes populaires et les élites. Mais c'est pas simple.
On va devoir s'arrêter là en attendant le prochain chapitre et une grande tchatche le mois prochain.
La grande tchatche, le ravi, Radio Grenoble.